Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi, entre 17h30 et 18h, vous avez rendez-vous avec Lille 1 Info, le magazine de Radio Campus consacré à l'Université Lille 1. La guerre de l'eau aura-t-elle lieu? Eh bien oui, c'est une vraie question qu'on se pose depuis un certain temps. L'eau n'est pas forcément inépuisable, en tout cas elle est rare, du moins dans certains pays. Même en France, on commence parfois à s'inquiéter. Pour parler de ce sujet très important et vital, eh bien j'ai invité Olivier Petit, qui est maître de conférence au Clercé Lille 1. Bonjour Olivier Petit.
Bonjour.
Donc effectivement, on a l'impression que l'eau devient un enjeu de plus en plus important, un enjeu tellement important qu'il modifie, change peut-être même les politiques de certains pays.
Alors effectivement, je pense qu'on peut dire que surtout depuis le début des années 1990, il y a une prise de conscience à l'échelle internationale de la nécessité de gérer durablement les ressources en eau. C'est un élément qui a émergé à peu près en même temps que les grandes préoccupations autour du développement durable. Et on peut dire que dans la plupart des pays du monde, et c'est le cas aussi en Europe, il y a eu des transformations assez substantielles dans les politiques de l'eau dans le courant des années 90, mais aussi à partir des années 2000.
Donc il y a eu récemment une rencontre débat avec plusieurs chercheurs, plusieurs responsables scientifiques, pour faire un petit peu un état des lieux. Et notamment peut-être pour réfléchir autour de ce qui est annoncé, c'est-à-dire ce réchauffement climatique, voir si cela a un impact, voir si c'est une réalité. Certains décrivent un petit peu le fait qu'on en fasse toute une histoire. Mais en tout cas, les problèmes sont bien réels. Enfin, on peut constater même en France parfois un appauvrissement des nappes phréatiques. Et dans certains pays, les changements climatiques deviennent assez récurrents. Et je pense à des grands pays où des zones sont relativement vidés de leurs eaux, des rivières qui deviennent asséchées, des lacs vides, des lacs de retenue qui ne retiennent plus rien. Enfin, quand même, il y a quand même des soucis.
Alors, c'est vrai que la question du changement climatique a sans doute exacerbé les problèmes de répartition qui ont toujours été importants. Ceci dit, comme on est dans un contexte de croissance démographique forte, on sait que les Nations Unies projettent 9 milliards d'habitants sur la Terre à l'horizon 2050. On aurait franchi cette année le cap des 7 milliards. Comme le disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La quantité totale d'eau présente à la surface de la Terre reste identique. Après, est-ce que c'est de l'eau salée, est-ce que c'est de l'eau qu'on peut consommer ou est-ce que ça reste de l'eau douce, ça c'est une autre question. Et de fait, avec l'accroissement de la population, les changements climatiques qui modifient en fait les régimes pluviométriques, les sécheresses qui deviennent plus accentuées dans certaines régions, se pose effectivement ce problème de la répartition de façon encore plus accrue.
Il y a des zones qui s'assèchent, on va dire, et peut-être aussi des migrations de population de zones asséchées vers des zones, on va dire, plus luxuriantes.
Alors ça, d'une part, effectivement, c'est ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, qui pour le moment sont relativement peu nombreux, sauf peut-être dans la région du Bangladesh, où on a quand même déjà, avec la montée des eaux, un certain nombre de situations vraiment dramatiques, de centaines de milliers, voire de millions de personnes qui sont obligées de changer de lieu d'habitation. En même temps, ce qu'on peut observer, c'est que dans certaines régions désertiques, notamment dans les pays développés, on a aussi des populations qui massivement viennent investir ces lieux où il y a relativement peu d'eau, du moins d'eau de surface. C'est le cas dans le sud des États-Unis, dans le sud-ouest des États-Unis, où on sait que les villes qui ont une croissance démographique la plus forte, par exemple, c'est des villes comme Phoenix, comme Las Vegas, comme Tucson, qui sont complètement perdues au milieu du désert. Donc, d'une certaine manière, ceux qui n'ont pas les moyens de faire face à la raréfaction des ressources en eau en subissent pleinement les conséquences. Et du fait aussi du changement climatique, c'est quelque chose qui devient tout à fait important. Mais en même temps, ceux qui ont les moyens trouvent des systèmes techniques pour dériver l'eau. Donc, dans le cas que je mentionnais tout à l'heure, dans le sud-ouest des États-Unis, c'est le Colorado qui est dérivé parfois sur plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, ça rentre pleinement comme un enjeu économique. Hein. Je rappelle que je suis économiste aussi, donc c'est sous cet angle-là qu'on peut appréhender les choses. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose de bien, qu'on s'entende. Mais cela dit, il faut quand même regarder aussi les choses sous cet angle-là.
Alors, dans ce regard, on peut peut-être aussi avoir une vue sur la situation en Chine, par exemple, où on parle du Tibet comme un problème essentiellement religieux, alors que la plupart des sources d'eau qui alimentent la Chine sont quand même des sources qui viennent de rivières qui ont leur source au Tibet, justement, et que pour les Chinois, il y a hors de question de lâcher c'est leur source d'approvisionnement.
Bon, c'est pas une région que je connais particulièrement. Cela dit, c'est vrai que lors du débat qui s'est déroulé au moment des Journées du patrimoine, les autres interlocuteurs, qui en l'occurrence étaient Jacques Bettemont, géographe, et René-Éric Dagorne, qui est géographe aussi, mais spécialiste de géopolitique, se sont exprimés sur ce sujet et tendaient quand même à considérer que c'était sans doute pas l'enjeu central qui justifiait la dimension un petit peu rigide de la position de la Chine à l'égard du Tibet. Certes, comme vous le dites, un certain nombre de cours d'eau prennent source dans le Népal, dans l'Himalaya, mais le facteur religieux, le facteur politique est sans doute beaucoup plus important pour expliquer ce conflit que simplement la voie d'entrée par le domaine de l'eau.
Si on prend des déserts connus, par exemple le Sahel, qui a toujours eu cette situation dramatique par rapport à l'eau, ou d'autres déserts dans le monde, est-ce que on constate parfois que des désertifications sont dues à l'homme et à une politique qui est menée par certains pays, qui a des effets néfastes, notamment sur les problèmes d'approvisionnement en eau de certaines régions?
Alors c'est vrai que les régimes climatiques tiennent beaucoup aux politiques, notamment forestières, qui sont menées. Et la déforestation dans certaines parties du monde, on a évoqué le Sahel, peut avoir un impact. Et effectivement, l'homme est une cause importante de déforestation, de désertification. Cela dit, on peut le voir aussi de façon beaucoup plus indirecte, parce qu'à travers le changement climatique, on est tous finalement contributeurs de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et ce changement climatique, on sait que d'après les prévisions du panel intergouvernemental d'experts sur le climat, c'est dans ces zones désertiques, notamment celles que vous avez mentionnées, le Sahel, qu'on risque d'avoir des augmentations de température les plus importantes, ce qui va accroître effectivement ce phénomène de désertification.
Est-ce que c'est... modifications locales peuvent avoir des répercussions aussi sur des lieux éloignés. Est-ce qu'il y a un effet, j'allais dire boule de neige dans l'autre sens?
Ça, je ne suis pas climatologue, donc je ne me hasarderai pas à faire des hypothèses, je dirais, de cet ordre. Mais c'est vrai que certains avancent, c'est le fameux effet papillon, le fait qu'à un endroit, on puisse avoir une modification, ne serait-ce que marginale, qui peut avoir des conséquences tout à fait importantes. Donc ce qui est clair, c'est que compte tenu de la quantité d'eau disponible à la surface de la planète et de sa répartition, qui va devenir de plus en plus délicate, parce qu'il va y avoir des zones dans lesquelles il y aura de l'eau, même trop d'eau, et d'autres dans lesquelles il y en aura de moins en moins, il importe de définir des politiques et des principes qui puissent finalement tenir compte de ces modifications importantes. Donc c'est ça qu'on appelle la gestion adaptative, hein, qui est un terme bien pompeux, mais pour expliquer qu'on ne peut pas avoir trop de dogmatisme dans la politique de l'eau, de la gestion de l'eau et des ressources, parce que l'eau seule n'est pas suffisante. Il faut aussi penser aux ressources, notamment aux ressources aquatiques. Et cette gestion adaptative, elle doit permettre d'anticiper un certain nombre de phénomènes qui risquent de se produire dans un avenir plus ou moins lointain.
Dans certaines zones du monde, je ne sais pas en France, hein, il y a des disparitions de l'eau liées à l'exploitation des rivières, aux gravières, des choses comme ça qui dénaturent le sous-sol et qui rendent les fonds, on va dire, des rivières plus perméables. Est-ce que c'est quelque chose qui a tendance à se répandre? Est-ce que il y a une dimension qui est importante de ce phénomène?
Je pense qu'effectivement, c'est un phénomène qu'il faut prendre en considération. Maintenant, si on regarde les différents secteurs qui mobilisent l'eau, finalement, en France, c'est le secteur agricole qui doit être regardé en premier. Le développement de l'irrigation à très grande échelle, qui a commencé en France essentiellement dans les années 50-60 et qui s'est vraiment accru dans les années 70, a eu sans doute beaucoup plus d'impact sur la disponibilité de l'eau. On sait qu'il y a certains aquifères qui sont surexploités. Donc l'aquifère, en fait, c'est le contenant. L'eau souterraine, c'est le contenu. Donc c'est la formation géologique qui contient ces eaux souterraines. Et on ne peut pas raisonner, effectivement, de la même manière quand on s'adresse aux eaux de surface et aux eaux souterraines. Mmh. Donc les politiques de gestion de l'eau doivent tenir compte des interdépendances qu'il y a entre eaux de surface et eaux souterraines. Et le phénomène que vous mentionnez, effectivement, a un impact sur les infiltrations de l'eau de surface vers les aquifères. Donc d'une certaine manière, l'eau n'est pas perdue. Après, elle change peut-être de localisation. Et puis, il faut savoir aussi comment on l'exploite, qui l'exploite. Et en l'occurrence, là, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore dans le domaine agricole.
Alors, ce détournement d'eau, il existe aussi, vous venez de le mentionner, par l'irrigation intensive, qui a pour but de prendre de l'eau à un endroit pour irriguer donc des parties de territoire qui manquent un peu d'eau, mais au-delà de ça, en aval, il ne reste plus grand-chose, ça existe.
Pardon. Ça existe effectivement dans certains... Si on reprend l'exemple que je mentionnais tout à l'heure, ce qui est un cas sur lequel je travaille, donc c'est pour ça aussi que je le mentionne, le Colorado, qui est quand même un cas tout à fait particulier parce qu'il y a un droit de l'eau tout à fait spécifique, il traverse un certain nombre d'États américains et chaque État a une législation spécifique. Le Colorado, on estime à l'heure actuelle que dans le Delta, au moment où il se jette dans le golfe de Californie, le débit actuel est d'environ 6% du débit théorique, c'est-à-dire qu'en amont de ça, en fait, ça a été mobilisé pour l'irrigation, par des barrages, pour la production électrique, ou évidemment pour l'alimentation en eau des villes. Et donc, le fait que les phénomènes amont-aval aient une importance accrue dans ce genre de situation, c'est quelque chose qui est tout à fait important de souligner, effectivement.
Donc, épuiser l'eau pour alimenter des turbines, c'est vrai qu'on n'a pas le même effet avec le vent quand on l'utilise, il en reste encore.
Voilà, alors on dit souvent que l'eau est une ressource renouvelable, et effectivement tout le monde connaît, pour l'avoir appris à l'école primaire, le fameux cycle de l'eau. Mais c'est vrai que cette ressource renouvelable, elle n'est pas de même nature que le vent, parce que au moment où on puise de l'eau à un endroit, qu'on la consomme, elle va s'évapotranspirer ou s'évaporer vers les nuages, et là du coup elle va tomber en précipitation dans une autre zone. Et donc du coup la localisation géographique de ces précipitations va être tout à fait importante, ce qui génère d'ailleurs un certain nombre de tensions, parce qu'on n'a pas encore évoqué ce problème-là, mais derrière la question de la guerre de l'eau, il y a les dimensions internationales entre les pays, notamment quand elles sont en situation amont-aval.
Cette eau, ce n'est pas le tout qu'elle existe, encore faut-il qu'elle puisse être consommable et consommée, et c'est là peut-être le nerf de la guerre au-delà de l'argent.
Alors c'est vrai que depuis le début des années 2000, il y a désormais, grâce aux Nations Unies, un rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau qui est remis tous les 3 ans au moment du Forum mondial de l'eau. Donc le premier rapport a été remis en 2003. D'ailleurs, le prochain Forum mondial de l'eau va se dérouler en France, ce qui sera une première. Ça va se dérouler en mars 2012 à Marseille. Et dans le cadre de ce rapport, ce qui est mis en évidence, c'est le nombre de personnes dans le monde qui n'ont pas d'accès à l'eau potable, qui avoisine plus d'1 milliard de personnes. Et plus important encore, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas accès à un système d'assainissement à proximité donc de leur lieu d'habitation. Et là, on est plutôt près des 2,3 ou 2,4 milliards d'habitants à la surface de la Terre. Donc De l'eau, il y en a. Je crois qu'il faut quand même reconnaître que c'est dans une proportion, dans une quantité tout à fait considérable à l'échelle de la planète. De l'eau douce, de l'eau consommable, ça c'est effectivement un autre problème qui devient économique, puisqu'on sait que c'est dans les pays en développement que les 2,4 milliards de personnes que je mentionnais sont évidemment le plus localisées.
En France, on a de grandes compagnies d'eau qui exportent leur savoir. Est-ce qu'elles n'ont pas tendance à assécher les économies des pays en voie de développement ?
Alors c'est vrai que c'est un débat qui fait tout à fait rage, d'autant que je vais prendre un petit peu en décalé votre question. Je mentionnais tout à l'heure le Forum mondial de l'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau a un statut tout à fait particulier par rapport aux autres compartiments de l'environnement mondial, c'est-à-dire les questions de biodiversité, les questions de changement climatique ou les questions de désertification ont été gérées d'une certaine manière par un certain nombre de conventions des Nations Unies, dont la plupart ont été adoptées en 1992 à l'occasion de la conférence de Rio. Dans le domaine de l'eau, je ne dirais pas qu'il y a un vide juridique, mais il n'existe pas de convention internationale qui prenne en charge en fait la gestion de l'eau douce de façon transfrontalière. Et du coup, ces grandes majors de l'eau que vous mentionnez, on peut mentionner Veolia... il n'y a aucun souci avec ça. Ces grandes majors de l'eau, Veolia, la Sor, la Lyonnaise. On pourrait aussi mentionner une autre grande major britannique qui est Thames Water. Elles ont pris l'initiative, avec ou à côté des gouvernements et des institutions internationales, de créer en fait des organisations qui vont mettre sur l'agenda politique les questions qui sont jugées pertinentes. Et le Conseil mondial de l'eau, qui organise les fameux forums mondiaux de l'eau qui ont lieu tous les 3 ans, en fait, est organisé gouverné par un consortium où vous avez présent ces grandes majors de l'eau et puis des États et des institutions internationales. Et donc du coup, ces majors de l'eau, elles ont quand même un pouvoir tout à fait important à l'échelle internationale, même si c'est essentiellement dans les grandes villes que leur pouvoir peut se déterminer, parce que le système de gestion déléguée qu'on connaît en France dans un grand nombre de villes importantes, c'est quelque chose qui, à l'échelle internationale, est relativement peu développé. Mais les grandes majors françaises de l'eau, Veolia, la Lyonnaise notamment, sont parmi celles qui détiennent le plus de gros contrats à l'échelle internationale dans ces grandes agglomérations, même s'il y a eu un retour à une gestion publique. C'est le cas très, très très connu en Bolivie, dans la ville du Cochabamba, où il y a eu un certain nombre de révoltes dans les années 1990, justement pour lutter contre ça. Donc dire qu'elles assèchent, pour pouvoir vraiment l'affirmer, dire qu'elles assèchent les économies, il faudrait avoir une bonne vue sur la manière dont elles tarifient l'eau. Et les systèmes de tarification sont souvent liés à des conventions dont les termes ne sont pas toujours accessibles. Donc je n'irai pas jusqu'à aller dans le sens affirmatif de votre question, à savoir si elles assèchent les économies, mais toujours est-il qu'on sait que ce sont des compagnies internationales, multinationales, qui font des profits qui sont tout à fait colossaux, et qui parfois d'ailleurs prennent bien soin de n'avoir la délégation de services publics que pour la distribution ou la production d'eau potable, mais qui ne se soucient pas toujours, parce que c'est pas dans le contrat, de l'entretien des réseaux, qui est plutôt justement un élément qui est d'ordre public. Donc les réseaux parfois se détériorent.
Donc on revient à la question centrale, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? On peut imaginer que ces gros trusts et ces gros intérêts internationaux sont à mettre en rapport avec ce qui se passe au niveau du pétrole. Et là, on peut dire quand même que le pétrole intervient sur des comportements agressifs de pays vers d'autres.
Alors, précisément, puisqu'on rentre dans le vif du sujet, la question qui était posée au moment des journées du patrimoine, le colloque auquel vous faisiez référence, la guerre de l'eau aura-t-elle lieu ? Il y avait, parmi les 3 invités dont je faisais partie, Jacques Bettemont, qui lui était plutôt favorable à cette hypothèse. Pour lui, effectivement, on peut aller dans cette direction. Pour ma part, et c'était également le point de vue qui a été développé par René-Éric Dagorn, c'est sans doute un mythe, plus qu'autre chose, parce que quand on regarde concrètement l'histoire passée, et quand on estime, même avec tous les éléments qu'on a mentionnés sur le changement climatique, sur les tensions amont-aval qui peut exister entre les pays, l'idée qu'il faut avancer, qui me semble beaucoup plus pertinente, c'est de dire que l'eau, c'est plus un facteur de coopération finalement qu'un facteur de conflit au sens du conflit armé. Alors je nie pas qu'il n'existe pas de conflit dans le domaine de l'eau, mais bien souvent, quand on prend la question de la guerre de l'eau, on le voit sous le prisme de l'eau comme étant un facteur déclenchant de conflits armés, qui serait le facteur principal. Or, bien souvent, lorsque l'eau entre en ligne de compte dans le cadre de conflits armés, c'est plutôt un facteur aggravant d'une situation qu'un véritable facteur déclenchant. On pourrait prendre le cas du conflit israélo-palestinien, par exemple. On ne peut pas dire que l'eau est le seul facteur qui justifie qu'il y ait ce conflit, même si c'est un facteur tout à fait important.
Bon, on va dire que boire un coup ensemble, ça crée l'amitié.
Je crois qu'il y a Mark Twain qui disait « Whiskey for drinking, water for fighting ». Donc, trinquer ensemble, tout dépend avec quoi on trinque. Certains considèrent que, mais c'est évident, que l'eau, c'est un motif de conflit qui peut dégénérer. Effectivement, moi, je considère que c'est plutôt un facteur de coopération.
Il y a ceux qui trinquent et ceux qui dérouillent.
Voilà, on peut le voir aussi sous cet angle-là.
Donc, si on voit les conflits, justement, qui naissent ou qui sont présupposés, est-ce qu'on peut imaginer des zones particulières du monde qui sont plus dans le rouge que d'autres ?
Oui, alors précisément, il y a d'ailleurs une cartographie qui a été réalisée par un certain nombre de chercheurs, c'est ce qu'on appelle les zones hydro-conflictuelles. Et quand on fait une cartographie à l'échelle internationale de la quantité d'eau disponible par habitant, et la cartographie de ces zones hydro-conflictuelles, évidemment, les points où il y a le moins d'eau disponible par habitant et les points où il y a le plus de conflits, c'est des cartes qui se superposent. Donc au préalable, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du début des années 70, il y a une chercheuse suédoise qui s'appelle Malin Falkenmark qui a mis au point ce qu'on appelle l'index ou l'indice de Falkenmark qui détermine la quantité d'eau disponible par habitant et par an. Et donc on considère souvent que un niveau de stress hydrique, c'est-à-dire un niveau d'eau disponible par habitant et par an qui est insuffisant pour assouvir l'ensemble des besoins à la fois humains mais aussi les besoins des écosystèmes, se trouve aux alentours de 1000 m3 par habitant et par an. Il y a tout un tas de pays, au moins une trentaine à l'échelle globale, qui à l'heure actuelle sont déjà largement en deçà de ce seuil de 1000 m3 par habitant et par an. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on est aux alentours de 4000 m3 par habitant et par an. Et évidemment, ces zones, ben, on les trouve dans le sous-continent indien. On les trouve au niveau du Mexique et des États-Unis, et puis on le trouve au Proche-Orient, au Moyen-Orient. C'est vraiment les zones qui sont réputées être les plus hydro-conflictuelles et dans lesquelles on a pu effectivement observer un certain nombre de conflits plus ou moins graves.
Si on prend le pétrole, c'est une ressource pour certains pays, une ressource économique importante. Donc des pays qui sont relativement riches en pétrole vendent leur pétrole. Est-ce qu'on peut imaginer que les pays riches en eau puissent la vendre ? C'est peut-être déjà fait, hein, mais que ce soit aussi possible d'échanges économiques justement entre le pétrole et l'eau. Qui est-ce qui fixe la valeur, hein ?
Alors, c'est vrai que le pétrole, c'est quand même une ressource qui a une très forte valeur ajoutée.
Pour l'instant.
Pour le moment, et qui risque d'en avoir encore plus avec le temps si on continue à être aussi dépendant du pétrole qu'on l'est. Le transport d'eau d'un pays à un autre, c'est quelque chose qui serait tellement coûteux qu'a priori, ça paraît difficilement imaginable. En revanche, de l'eau embouteillée, puisque c'est déjà le cas, qui serait vendue à un pays qui en aurait fortement besoin, ça c'est des phénomènes qu'on peut observer. Il y avait notamment un documentaire qui a été réalisé il y a quelques années par Roberto Lugones qui s'appelait « Aquifère Guarani, main basse sur l'eau », qui est passé sur Arte. Si vous avez l'occasion d'ailleurs de le revoir, on peut le télécharger sur certains sites payants. Dans ce documentaire, en fait, on observait le cas de cet aquifère, qui est un aquifère gigantesque, hein, qui fait 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire presque deux fois la superficie de la France, qui se trouve à cheval, si mes souvenirs sont bons, entre l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil et une partie de l'Argentine. Donc c'est un aquifère qui est transfrontalier. Et évidemment, dans la mesure où il n'y a pas de législation internationale qui guide la consommation, l'exploitation en fait, de ces ressources en eau souterraine, il y a un certain nombre de personnes dans ce documentaire qui, par exemple, disaient « finalement, on vend bien du pétrole, on a une source d'approvisionnement puisque cet aquifère est réputé pouvoir approvisionner en eau, en quantité, l'ensemble de la planète pour un siècle, tellement il y a une quantité importante. Maintenant, on sait qu'elle risque d'être progressivement polluée. » Et un des interlocuteurs brésiliens disait « mais finalement, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas à passer un certain nombre de contrats avec des pays du Golfe qui ont de l'argent et qui en même temps ont besoin d'eau et qu'on pourrait effectivement faire cet échange ?» Donc pour le moment, on est plutôt sur la perspective, je dirais, du mythe que de la réalité, mais certains y pensent.
Voilà, on n'est pas dans la politique fiction, hein, on est dans l'économie, je vais dire, réfléchie. Olivier Petit, donc merci pour votre intervention. On peut peut-être donner la référence de quelques ouvrages qui pourraient éclairer davantage l'auditeur.
Bah écoutez, je pense qu'il y a notamment un ouvrage de Graciela Schneier-Madanès qui est paru en 2010 aux éditions La Découverte, qui s'intitule « Eau et mondialisation, la gouvernance en question ». Qui peut donner effectivement un certain nombre de clés intéressantes par rapport à ça. Et puis, au-delà de ça, il y a un ouvrage qui est paru il y a quelques années de Jacques Cyrano, chez Economica, dont j'ai oublié le nom, mais qui doit porter sur les questions d'eau et de sécurité, qui est effectivement un autre élément que je conseille à nos auditeurs.
Un site web où on se préoccupe de ces questions ?
Bah déjà, vous pouvez aller voir sur le site web du World Water Council, du Conseil mondial de l'eau, pour voir les éléments qui sont jugés d'actualité donc par ce conseil. Et puis, sur le site de l'UNESCO, il y a notamment un programme mondial donc sur la mise en valeur des ressources en eau, qui est tout à fait intéressant à consulter par rapport à ça.
Merci Olivier Petit.
Merci à vous.